Oui, monsieur Daniel Mermet, bonjour. J'ai écouté par hasard votre émission depuis plusieurs jours et je voulais vous dire que j'avais le sentiment d'être en Corée du Nord, même plus à Cuba, qui est en train de devenir un État démocratique depuis la disparition de Fidel, mais bien en Corée du Nord. Vous faites de votre émission un outil de propagande anti-gouvernementale d'inspiration bolchévique, vraiment de premier degré. Et ce qui est d'autant plus lamentable, c'est que vous utilisez l'argent du contribuable, puisque France Inter est quand même une radio d'État, pour faire passer et pour faire la propagande de vos idées personnelles. Et vous tordez le cou au pluralisme des idées, car il n'y a jamais d'opinion contradictoire dans votre émission. C'est toujours dirigé contre le gouvernement actuel. Et monsieur Mermet, vous êtes l'incarnation de ce que vous prétendez dénoncer, c'est-à-dire le sectarisme, le parti pris et la désinformation. Bonne journée, monsieur Mermet.
Ouais, c'est Binge de Modane. J'écoutais l'émission, là. C'est vrai, les malades, ils sont responsables. Moi, je pense qu'on doit les sensibiliser. Je sais pas, le mec, il arrive, tu lui dis, t'as bien réfléchi avant d'avoir un cancer? Qu'est-ce que ça coûte? Et ouais, le diabète, on prie des trucs et tout, là, non, tu... Moi-même, je suis myope depuis l'âge de 11 ans et j'ai fait ça sans réfléchir. J'aurais fait un business plan, genre ce que ça allait me coûter en lunettes. Putain, j'aurais fait autre chose. Moi, j'aurais fait, je sais pas, asthmatique ou...
Salut Daniel et tous les auditeurs de la Bercy. J'y suis. Voilà une remarquable émission concernant tous les reculs sociaux dans le domaine de la santé. C'était vraiment une très très belle émission, mais j'ai regretté que les responsables de ces choix ne soient pas nommés. En l'occurrence, notre cher Nicolas Sarkozy, notre cher François Fillon, Premier ministre, et notre chère Roselyne Bachelot, qui a pris toutes ces mesures contraires aux intérêts communs de l'ensemble des assurés sociaux.
Salut là-bas, moi j'y suis en plein, tu vas voir. Pendant l'émission d'aujourd'hui, j'ai entendu le camarade sarcastique parler d'une femme qui est parvenue à obtenir un paquet d'ordonnances dans la même journée, avec une douzaine de boîtes du même médicament à la clé. Or, comme le dit François Lehmann, il est douteux de tirer de ce fait un exemple significatif du comportement des assurés sociaux en général. En entendant le sarco, j'ai bondi, pas seulement à cause de la grossièreté de la ficelle. Dans le bouquin de Christian Salmon, Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, je lis, page 126, que Ronald Reagan, il y a environ 30 ans, avait inventé l'histoire de la reine assistance, the Queen Welfare en anglais, qui s'était acheté une Cadillac aux frais du gouvernement. On voit que la ficelle de Sarkozy, en plus d'être grossière, est éculée. De part et d'autre de l'Atlantique, on utilise les mêmes techniques de propagande, des solutions qui ont été choisies à l'avance pour faire passer le message que l'État ne peut pas remédier à tous les problèmes, puisqu'il est le problème. L'État-providence, bien entendu. Décidément, Sarkozy, c'est vraiment la rupture. Un style nouveau, un discours qui a 30 ans. C'était Jean-Pierre Daubonne.
Les mesures prises par le pouvoir aujourd'hui sont possibles parce qu'il y a un affaiblissement idéologique, plus de conscience politique et plus de vigilance de classe. Ambroise Croizat, ministre communiste en 1945, a mis en place la sécurité sociale suivant le principe de l'économie socialiste, économie socialisée et solidaire. On cotise selon ses moyens et on est soigné selon ses besoins. Pour les forces capitalistes, cette logique est insupportable. Le capital lui préfère la logique de l'économie de marché. On cotise selon ses envies, chacun pour soi, et on est soigné à hauteur des versements que l'on a choisis individuellement. Question. Le peuple se tournera-t-il vers des solutions individuelles ou bien reviendra-t-il à des solutions solidaires et collectives? C'est Régis, de Nîmes.
Oui, bonjour, je viens d'écouter l'émission sur la sécurité sociale. Alors, vous avez parlé du Conseil national de la Résistance et de Gaulle, mais moi, je veux absolument préciser que c'est Ambroise Croizat, ministre communiste de la Santé, qui a mis sur pied la sécurité sociale, et que les premières atteintes contre la Sécu ont été portés par des ordonnances édictées par De Gaulle dans les années 60. Voilà, je tenais à préciser tout ça. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.
Salut Daniel. J'écoute ton émission et je comprends pas très 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 bien ton raisonnement. Premièrement, tu dis qu'il faut pas avoir une franchise. C'est bien le système, quand c'est gratuit, est absolument gratuit, on consomme tant qu'on veut. C'est même pas que les gens ont envie de tricher, c'est que quand c'est, tout est gratuit, ben, on consomme tant qu'on veut. On se fait marquer des médicaments à tire-larigot si le docteur a passé un deal avec les pharmacos. Moi-même, je remarque que j'ai des tas de médicaments qui ne me servent à rien. Voilà. Ceci étant, si je paye un euro par boîte ou un demi-euro ou quoi que ce soit par visite, là, effectivement, je vais regarder. Voilà, ça veut dire ça, responsabiliser. Ça ne veut pas dire que les gens trichent. Deuxièmement, tu dis 850 millions d'euros, c'est rien. Mais attends, sur un déficit à 12 milliards, il te faut plein de petites économies, parce qu'on ne va pas les supprimer, la Sécu, j'espère. Donc, il te faut plein de petites économies à 500 millions d'euros, etc. Et non pas une seule. Donc, il ne faut pas dire que 850 millions d'euros, ça ne sert à rien, donc on ne le fait pas. Ça, c'est nul. Hein, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Voilà. Il faut pas raisonner comme ça, noir et blanc. C'est pas ni noir ni tout blanc. Il y a un juste milieu. Et effectivement, en plus, si on continue comme ça, c'est les enfants qui vont payer. Donc, ça sera pas mieux. Hein. Ce sera les pauvres qui paieront. Et les enfants de pauvres qui paieront encore plus et qui auront plus de santé. Donc, à trop forcer sur le médicament, si j'ose dire, tu es en train de noyer le poisson, là. Voilà. À bientôt.
Bon, ben c'est mardi aujourd'hui, je suis dans le pays niçois, là, je suis en train d'écouter Daniel Mermet, juste maintenant, j'avais ouvert le poste, il n'était pas là, et j'écoutais cette espèce de Ducon-Lajoie qui vient de raconter qu'il fallait faire des assurances sociales privées, tout ça et tout, parce que c'est la sécurité sociale et ça ne sortait pas. Mais il est barjot ce mec, complètement. Il ne se rend pas compte que si demain il est malade, qu'il a plein d'opérations, plein de choses à faire d'un coup, il peut dépenser en une seule fois, rattraper tout l'argent qu'il a dépensé dans peut-être toute sa vie, parce que des fois, ça peut coûter des dizaines de millions d'anciens francs. Je te prends un exemple. Moi, je ne suis pas très souvent malade. Hein. J'ai 68 ans, je suis allé faire des bilans ces temps-ci. Eh bien, j'ai déjà fait un scanner, deux coloscopies, gastroscopie, tout ça, un tas de choses. Hein. Je me suis fait opérer, j'ai eu une blessure, je me suis blessé, j'ai eu des agrafes. J'ai eu une opération dans une lèvre. Je ne sais pas combien j'ai pu coûter la sécu. Ça m'a coûté peut-être 200 francs, moi. Si j'avais dépensé du pognon, vraiment, tout ce qu'ils m'ont fait en 3 ou 4 semaines, à l'hôpital et un peu à la clinique, ça m'aurait peut-être coûté 7 ou 8 briques anciennes, quoi. 7 ou 8 millions, mais ils ne se rendent pas compte, ces mecs-là, ils sont fous. Ils ne connaissent rien. En plus, la sécu, on ne rembourse presque plus rien. Les médicaments, il y a 40 ans, ils étaient remboursés à 80% et 100%. Maintenant, la moitié des médicaments ne sont plus remboursés et on en rembourse des fois à 35 ou 40%. Et ces gens-là, ils comprennent rien. Hein. C'est sûr que, bien sûr, si plus personne ne travaille, que tout le monde est au chômage, la Sécu se casse la gueule. La Sécu, c'est la plus grosse formidable ce qu'on a fait. Et comme la retraite par répartition, on ne peut pas faire mieux. Dans un système capitaliste, c'est le seul endroit qu'on peut faire quelque chose. Donc, ce type-là, il ne comprend rien. C'est un jeune, mais un patron, mais un jeune gnocque, ouais, complet, un idiot, hein, comprend rien. Hein. Je le plains, hein, pauvre type. Allez, au revoir et merci. Et bravo à Daniel qui continue comme ça. Hein. Allez, ciao.
Oui, bonjour, je vous appelle là, de Clermont-Ferrand. Et depuis que l'émission sur les sans-papiers a commencé, voilà ce qu'on entend à la radio. Je pense pas que je sois le seul à avoir été coupé. C'est bizarre. Voilà. Eh ben, désolé. Enfin.
Eh oui, il y a eu une panne d'un émetteur grandes ondes. Et pendant 20 minutes, vous avez été privé de votre émission modeste et géniale, enfin du moins une partie d'entre vous. C'est ce qui est terrible, on peut vous comprendre, quelle frustration, mais vous pouvez réécouter l'émission sur là-bas.org, là-bas.org. Et c'était qu'une partie évidemment de nos chers auditeurs qui étaient affectés, ceux qui écoutent encore en grande zone. Aujourd'hui, on continue, franchise médicale, deuxième volet. Nous ne sommes pas coupables d'être malades. Les franchises, ces franchises médicales entrent, vous le savez, dans un programme, vaste programme de modernisation, c'est-à-dire de réduction des dépenses sociales et de destruction des solidarités au profit du privé.
pour soutenir cette politique courageuse, la destruction de la protection sociale, on évoque souvent, et certains médias s'y emploient très souvent, on évoque souvent la fraude fiscale. Alors c'est intéressant de s'intéresser, c'est le cas de le dire, à ces papiers et à ces argumentaires qui amalgament la fraude des entreprises qui ne payent pas les charges sociales et le RMiste qui fait un chantier au noir en plus des somptueuses allocations dont il bénéficie. Alors évidemment, si on amalgame tout ça, on a au total une fraude sociale impressionnante. La fraude sociale des entreprises qui ne payent pas les charges sociales étant de l'ordre de 8 à 10 milliards, selon certains chiffres qui, évidemment, méritent d'être vérifiés, ce que nous ne manquerons pas de faire, parce que c'est quand même un chapitre intéressant. Par ailleurs, je renouvelle l'appel un témoignage sur mai 68. Je me souviens de mai 68, on en a déjà pas mal qui sont très intéressants, très passionnants, mais continuez. Bientôt, c'est l'anniversaire du grand discours, le 28 avril, à Bercy l'an passé, souvenez-vous, ce discours aussi historique qu'hystérique, où notre président de la République voulait en finir avec l'esprit de mai 68, à en juger par l'avalanche de témoignages et aussi de publications, enfin vous voyez tout ça autour de vous, sur mai 68, je ne suis pas sûr qu'il ait réussi à faire oublier cet épisode historique de nos mémoires collectives, et pas seulement de nos mémoires à nous dans notre hexagone, mais dans le monde entier, du Mexique à Prague, de Berkeley à Tokyo. Il y a eu tout un vent, ces mois-là, il y a 40 ans, qui ont remis en cause les pouvoirs, tous les pouvoirs. Il y a eu une interrogation sur toutes les formes de pouvoir, et ça reste valide aujourd'hui, même si beaucoup de choses sont devenues caduques, et si nous avons changé d'époque, on en parlera dans les jours prochains. Donc aujourd'hui, les franchises médicales, deuxième volet. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Hier, dimanche 20 avril, des mères de famille employées par une boîte d'intérim étaient au travail. Elles sont conseillères de vente dans un magasin de bricolage. Elles feront 75 heures en 13 jours sans interruption, jour férié dimanche étant payé comme un lundi 21 avril. D'ailleurs, elles sont payées entre le 15 et le 20 du mois. Elles ont des contrats de un mois, renouvelables à l'infini. Leur patron, d'ailleurs, attendra le dernier jour du contrat pour leur dire si elles sont attendues à la pointeuse ou non le lendemain matin. J'ai été licenciée de cette boîte d'intérim sans préavis à la suite d'un accident de travail qu'ils ont refusé de déclarer. Quand je me suis renseignée au prud'homme, on m'a répondu que la boîte d'intérim était en liquidation judiciaire depuis plus d'un an et que le patron du magasin de bricolage avait le bras trop long pour que la justice s'attaque à lui. Voilà, ben, tout ça pour dire que j'admire le courage de ces Mexicains et autres travailleurs avec ou sans papier qui se révoltent contre ces patrons qui se permettent n'importe quoi impunément. Merci pour tout et puis à bientôt.
Oui, bonjour Daniel. Lundi, l'émission était consacrée aux sans-papiers qui travaillent. Merci d'éclairer la question des sans-papiers et de la politique d'immigration menée en notre nom, en notre nom à nous Français. La France, notre pays, mon pays, a cette attitude face aux étrangers. Et pour éclairer cette politique, il y a un petit livre qui vient de sortir à la découverte. La chasse aux enfants, l'effet miroir de l'expulsion des sans-papiers. Et ce petit livre, il explique comment nous sommes tous touchés par ce qui se passe aujourd'hui en France, quel que soit notre âge. Et même si nous avons des papiers. Oui, et ben il faut lire et diffuser ce petit livre. Il aide à penser ce qui se passe aujourd'hui pour pas collaborer à cette politique honteuse et résister individuellement, collectivement, pas se laisser faire. Merci de passer le message. À bientôt. C'était Fred de Nevers.
Oui, bonjour. Eh bien, voilà, à Limoges, nous organisons une soirée de soutien à Alain Dorange, qui est un faucheur volontaire d'OGM et qui a refusé un prélèvement ADN. Et donc, il est mis au tribunal. Et nous organisons donc cette soirée de soutien le lundi 28 avril 2008 à l'Amphi Blanqui, derrière la mairie de Limoges, à partir de 19h, avec un apéro-concert et une projection gratuite du film « Pisté par nos gènes ». Voilà. Eh bien, merci d'avance. Et bon courage à tous.
Bonjour, c'est Stéphane de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Et en fait, je voulais vous informer qu'une grande manifestation a eu lieu aujourd'hui à Saint-Laurent. Toute la matinée, dès 7h, on s'est retrouvé à plus d'un millier, des enseignants, des élèves, des parents, pour crier notre mécontentement par rapport à la réforme de l'éducation qu'on nous propose. Je prends juste un exemple. Dans mon lycée, on supprime les options latin, théâtre et EPS. Et puis, on demande aux enseignants de réaliser 3-4 heures supplémentaires afin de pallier les non-créations ou les suppressions de postes. Et comme pas mal de monde en métropole, apparemment, nous, on dit non à ce bradage de l'éducation publique. Voilà. Allez, salut.
Salut à tous les auditeurs de là-bas si j'y suis. Moi, je suis travailleur social en formation et ça fait 2 mois qu'on est pris en otage par une circulaire qui met en place une gratification qui remet fortement en cause nos formations. Ça fait 2 mois qu'on n'arrive pas à se faire entendre de la tête de notre société, c'est-à-dire l'État. Donc aujourd'hui, il n'est plus question qu'on fasse fonctionner la machine. Donc nous, on bloque, on a mis la machine sur le bouton off. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on bloque notre centre de formation et qu'on empêche la machine de fonctionner. On est étudiant en travail social de Bretagne. On est, nous, à Rennes aujourd'hui. Et il n'est pas question que la machine fonctionne tant qu'on ne sera pas entendu de l'État. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On est sur coordo bzhtsf@gmail.com. Salut à vous.
Salut Daniel, c'est François de Paris. Alors j'écoute ton émission sur lava.org là, et puis j'entends Pascal Dumont qui précise sur répondeur que Sarko est pas son président. Et donc moi j'estime que c'est pas non plus le mien. Donc effectivement, selon Pascal, j'aimerais bien maintenant que Sarko se nomme comme le président de tous les Français, sauf Pascal Dumont et sauf François de Paris. Voilà, merci, à bientôt.
Le maintien d'un monopole était une atteinte aux droits de l'homme. C'est-à-dire que la liberté de l'homme consiste à dire que je peux aller m'assurer si je veux où je veux.
Nous ne sommes pas coupables d'être malades. Non, non, non. Au franchisme médical.
10 à 20% des Français auront une assurance privée pour couvrir tous leurs frais médicaux libéraux. Ils voudront plus cotiser à la sécurité sociale. Et ça, c'est la fin du système de répartition solidaire.
Nous n'allons pas assurer n'importe qui, n'importe comment, et nous allons prendre quelques renseignements sur la personne.
Le but n'est pas de sauver la sécurité sociale et de combler un mythique trou de la sécu qui serait lié aux dépenses inconsidérées des Français. Le but, c'est de dire, regardez, on a tout essayé, ça ne fonctionne pas, ça marchera mieux si on le passe au privé.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Renaud Lambert. Nous ne sommes pas coupables d'être malades.
Flight number 2, arriving from New York.
Sur chaque recours au système de santé, une participation forfaitaire de 50 centimes par boîte de médicaments, 50 centimes, de 50 centimes sur les actes paramédicaux et de 2 euros sur les transports sanitaires. Cette franchise, je souhaite qu'elle s'accompagne de 3 garanties au moins. Je souhaite d'abord un plafond global annuel de l'ordre de 50 euros. Je ne veux pas que la franchise puisse coûter plus de 50 euros à un assuré par an. 4 euros par mois. Qui va oser me dire que compte tenu du défi que représente pour la société Alzheimer, le cancer, les soins palliatifs, les besoins de la recherche, on ne peut pas mettre 4 euros par mois?
C'est dit si gentiment, si généreusement, avec cette pointe de compassion qui est à la politique ce que la gousse d'ail est au gigot du dimanche. 4 euros, 0,50 centimes d'euros, c'est si peu, c'est si bon qu'on se demande bien pourquoi ça grogne, pourquoi ça râle et pourquoi ça pétitionne. Derrière cette franchise médicale, mesure phare du projet de budget 2008 de la Sécu, des archaïques râleurs voient un projet de privatisation progressive de la protection sociale. Progressive, c'est comme pour faire cuire une grenouille. Il est préférable de la mettre dans l'eau froide et de chauffer peu à peu. Elle ne s'en rend pas compte. Voilà ce qu'il redoute. Pour eux, à les entendre, l'assurance maladie solidaire est en danger. Il faut dire que déjà 15% des Français déclarent renoncer à des soins pour raisons financières. Il faut dire aussi que ce projet est très impopulaire et que ça risque de chauffer dans les temps qui viennent. Voilà pourquoi nous sommes ensemble jusqu'à 16h. La base, il y suit.
Je vais vous parler d'une tribu, vous les avez sans doute vus. Il y en a beaucoup par chez nous, on les appelle les Tamalous.
Tamalou, toi,
ici,
et Tamalou, toi,
là.
Tamalou,
là aussi,
et Tamalou,
Leur but est de communiquer les bonnes adresses pour se soigner quand l'un d'entre eux sort un cachet. La discussion est amorcée.
Dis-moi si ton toubib est bien, qu'est-ce qu'il te donne pour le mal de rein? Moi j'en ai un pour la sciatique, il me donne des trucs fantastiques.
T'as mal où toi?
Ici.
Et t'as mal où toi?
Là.
T'as mal où?
Là aussi.
Et t'as mal où?
Ah.
Le mien pour ceux qui sont nerveux, quand les doigts qui bégayent un peu, il te file un décontracté, dans tous les cas te fais pas de bille.
Je souffre d'un excès de poids, tout sur les traves, ça va de soi. Et j'aime trop ce qui est bon, j'ai un chouïa d'hypertension.
T'as mal où toi?
Ici.
Et t'as mal où toi?
La couillon.
T'as mal où?
Là aussi.
Et t'as mal où?
Ah,
en ce moment ça va pas trop mal, mais un jour viendra, c'est fatal. Quand on partira en biou, on sera les rois des Tamalou. T'as mal où toi?
Ici.
Et t'as mal où toi?
Là.
T'as mal où?
Là aussi.
Et t'as mal où?
Oh.
Et même en plus, si on picole un peu trop de vin, un petit coup d'yol les convainc un peu trop en piste, on ajoute le foie sur la liste. Tu as les doigts de pied qui te piquent, c'est un excès d'assiduré. La prostate qui est bien trop grosse, faut souvent faire pleurer le gosse.
T'as mal où toi?
Ici.
Et t'as mal où toi?
Là.
T'as mal où?
Là aussi.
Et t'as mal où?
Oh.
Des fois on a surplus des masses, et là les raideurs se déplacent. La vue qui part en sucette, il faut encore changer de lunettes.
À force de prendre des cachets bleus pour rester jeune, les petits vieux seront vaccinés contre tout, mais seront quand même des tamalous.
Tamalou, toi,
ici.
Et tamalou, toi,
là.
Tamalou,
là aussi.
Et tamalou,
oh.
En ce moment ça va pas trop mal, mais un jour viendra, c'est fatal. Quand on partira en biou, on sera les rois des tamalous.
Bonjour.
Bonjour madame, j'aurais aimé savoir si c'était possible d'avoir un rendez-vous.
Vous quittez pas un petit instant?
Oui.
Merci. J'ai une place qui s'est libérée cet après-midi, si ça vous intéresse.
Cet après-midi, oui. Oui, c'est
à possible. À 16h, ça vous va?
Oui, d'accord, très bien.
Vous l'avez déjà vu ou pas?
Non, ce serait la non. première fois.
Alors, votre prénom?
Daniel.
Très bien, donc on dit cet après-midi à 16h.
Très bien, je voulais juste vérifier. Moi, je suis à la CMU, ça pose pas de problème.
C'est-à-dire que normalement, il les reçoit à l'hôpital Ambroise Paré, ça.
Ah, d'accord.
Vous voulez que je vous donne le numéro pour prendre rendez-vous avec lui là-bas?
Oh, bah, sinon, je peux. Cet après-midi, c'est pas possible?
Aussi, mais pas ici.
Ah bon?
Enfin, à Ambroise Paré, c'est pas moi qui ai le planning.
Ah bon, d'accord. Mais dans son cabinet, il reçoit pas pour les
non,
gens.
Non, il les reçoit à Ambroise Paré.
Pourquoi?
Parce que c'est pas les mêmes tarifs.
D'accord.
Simplement.
Ouais, mais moi, je suis remboursé, quoi. C'est,
oui, mais là, ici, c'est 70€ la consultation.
Ah, d'accord. Très bien. Je vous remercie, voilà. Madame. Au revoir.
Après, au revoir.
C'est à l'Ambroise Paré, bonjour. C'est très occupé, l'ophtalmologie. Vous patientez?
Oui.
Bon, nous allons prendre votre appel. Situé aux portes de Paris, 9 avenue Charles de Gaulle à Boulogne-Billancourt, vous pouvez nous rejoindre par la ligne 10 du métro Boulogne-Jean Jaurès, ainsi que par les bus 123 et 241. Bonjour, l'hôpital Ambroise Paré met ses équipes à votre service. Merci de patienter quelques instants, nous allons prendre votre appel.
4 minutes d'attente.
aux portes de Paris 9 avenue Charles de Gaulle à Boulogne-Billancourt, vous pouvez nous rejoindre par la ligne 10 du métro Boulogne-Jean Jaurès, ainsi que par les bus 123 et 241.
Centre universitaire de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, nous sommes dotés de 468 lits de court séjour.
Bonjour, l'hôpital Ambroise Paré met ses équipes à votre service.
12 minutes d'attente.
Merci de patienter quelques instants, nous allons prendre votre appel. Situé aux portes de Paris 9 avenue Charles de Gaulle à Boulogne-Billancourt, vous pouvez nous rejoindre par la ligne 10 du métro Boulogne-Jean Jaurès, ainsi que par les bus 123 et 241.
Les patrons.
Hôpital Ambroise Paré, bonjour.
Bonjour madame, j'aurais voulu un rendez-vous en ophtalmologie, s'il vous plaît.
Je vais essayer, hein. Je crois qu'il y a qui t'est.
Ça fait maintenant 19 minutes que j'ai commencé mes appels pour prendre un rendez-vous.
Voilà. Ophtalmologie, bonjour.
Bonjour madame, c'est pour prendre un rendez-vous, s'il vous plaît.
Oula, ça va être décembre maintenant, hein. Vous l'avez déjà vu ou...
Bah non, mais en fait, je viens d'appeler à son cabinet. Il y avait un rendez-vous cet après-midi, mais quand je lui ai dit que j'étais à la CMU, ça, on m'a renvoyé ici.
Ah ouais, mais j'ai pas de place dans l'immédiat. C'est pour ça que je... Et là, tout est chargé, tout est complet, hein.
Ouais, donc les gens comme moi, la CMU, doivent attendre jusqu'en décembre, quoi.
Ah oui.
Bon, bah, décembre, alors.
Eh oui, deux vitesses, la médecine à deux vitesses, la santé à deux vitesses, on connaît déjà cette notion, on l'observe, on la dénonce bien évidemment. Alors le président de la République a parlé de responsabilité, il a bien insisté sur ce thème et ce terme de la responsabilité. Alors, le trou de la sécu, est-ce bien vraiment entièrement la faute du malade, du patient qui fraude, qui triche et qui est irresponsable? En soumettant les stock options à cotisations sociales à même niveau que les salaires, on pourrait faire rentrer 3 milliards d'euros dans les caisses de l'assurance maladie. Qui a dit ça? Un épouvantable gauchiste? Pas du tout. C'est Philippe Séguin. 3 milliards. Est-ce qu'il n'y a pas là une notion de responsabilité qui pourrait être appliquée? Question et partie de la réponse.
À notre manif de jeudi, on était 12 000. Il y avait des banderoles toutes les 2 mètres et pas sur une seule banderole. Il y avait marqué « Pour la liberté d'installation ». Les banderoles étaient claires, c'était « Sauvons la sécu ». Tous les titres des journaux télévisés et écrits étaient « Les internes manifestent pour la liberté d'installation ». Et ça, c'est inadmissible.
Ce qu'il faut bien que tout le monde comprenne, c'est que ça ne concerne pas les médecins, ça concerne tous les Français. Tout ça, c'est de la démagogie, c'est des prétextes. Là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on dit aux médecins « Si vous allez dans les zones surdenses, vous allez être déconventionnés ». Un médecin, il s'installe en moyenne à 39 ans. À 39 ans, une femme, des enfants, 30% minimum vont rester là où ils sont. Ils vont pouvoir ouvrir leur cabinet. En ouvrant leur cabinet, ils seront déconventionnés. Les patients ne seront pas remboursés. À partir de là, au fur et à mesure, les patients, quand ils vont voir que des médecins, il faut attendre 5 heures pour aller les voir, ils vont aller voir les autres, où il n'y a qu'une demi-heure ou une heure. Les assurances privées vont se faire un plaisir de...
Quitte à payer plus, quoi.
Quitte à payer plus, les assurances privées vont se faire un plaisir de rembourser intégralement ces patients-là et de prendre en charge ces patients-là. Quand 10 à 20% des Français auront une assurance privée pour couvrir tous leurs frais médicaux libéraux, ils ne voudront plus cotiser à la sécurité sociale. Et ça, c'est la fin du système de répartition solidaire. Si tout le monde n'est pas solidaire, c'est la fin de la sécurité sociale. Tout ça, c'est démagogique. C'est mettre la population contre les soi-disant médecins qui roulent en Porsche et qui ne veulent pas travailler.
En fait, c'est un peu l'adage qui dit « quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage ».
Exactement. En tout cas, on met en opposition les différents groupes et toutes les valeurs, c'est de la démagogie pure et simple. C'est pas étonnant de la part de ce gouvernement, mais là, c'est poussé à l'extrême.
On a la rage.
Nous ne sommes pas coupables d'être malades. Non, non, non. Au franchise médical, nous ne sommes pas coupables d'être malades. Non, non, non. Au franchise médical, nous ne sommes pas coupables d'être malades. Non, non, non. Au franchise médical. Nous ne sommes pas. Non, non, non. Nous ne sommes pas.
Ce
qu'on voit depuis la réforme d'Ouste Blasi 2004, c'est que des dogmes sont mis en place, qui sont des dogmes libéraux, comme le fait qu'il faut responsabiliser les patients, ce qui ne veut strictement rien dire, parce que moi je ne sais toujours pas comment on responsabilise un cancéreux ou un dialysé, mais je pense que d'Ouste Blasi lui doit savoir. Tous ces dogmes, ça ne fonctionne pas, ça augmente le coût des soins, ça dissuade les plus faibles d'avoir recours aux médecins, ça aggrave donc l'état sanitaire de la population. On sait qu'un nombre grandissant de Français renonce à des soins de médecine, des soins dentaires. Le but n'est pas de sauver la sécurité sociale et de combler un mythique trou de la sécu qui serait lié aux dépenses inconsidérées des Français. Le but, c'est de dire, regardez, on a tout essayé, ça ne fonctionne pas, ça marchera mieux si on passe au privé.
Appel contre la franchise, c'est un groupe et c'est un site aussi qui s'est constitué, www.appelcontrelafranchisetoutattaché.org, qui a lancé une pétition. Et parmi les instigateurs de ce mouvement, il y a Christian Lehmann, qu'on vient d'entendre, qui est médecin généraliste et qui est également écrivain. Christian Lehmann.
L'idée est véhiculée par Nicolas Sarkozy qui, après avoir dit « Y a-t-il une assurance sans franchise ?», dit clairement
« Nous parlons d'assurance maladie. Y a-t-il une assurance sans franchise ?» Non.
Pour moi, la franchise est incontournable. Elle serait payée, pensait-il alors, chaque trimestre et elle aurait vocation à augmenter.
Si les dépenses augmentent et donc le déficit augmente.
Si le trou de la sécu augmente et donc, soyons clairs que les Français n'ont pas été vertueux. Et si par contre le trou de la sécurité sociale diminuait, ce qui sous-entendrait que les malades ont fait attention.
Si les dépenses d'assurance maladie diminuent et donc le déficit diminue, on pourra alors, à la suite du débat au Parlement, baisser le montant de la franchise.
Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études d'économie pour savoir que le trou de la sécurité sociale, ce n'est pas un trou dans lequel on peut tomber, c'est une construction intellectuelle à partir des recettes et des dépenses. Et évidemment, Nicolas Sarkozy s'intéresse au volet dépenses, mais refuse de s'intéresser au volet recettes, parce que sinon il serait obligé de tirer les mêmes conclusions que par exemple Philippe Séguin, et de dire que l'un des problèmes de la sécurité sociale et de la protection sociale en France, c'est que cette protection sociale, elle est essentiellement financée par le travail, par les cotisations, le salaire indirect, les cotisations des travailleurs, de ceux qui sont censés travailler plus pour gagner plus, pour demain pouvoir peut-être payer une partie de leurs soins. Mais en l'espace de 25 ans, il y a 10 points du produit intérieur brut qui sont passés de revenus du travail aux revenus financiers, et eux, merci pour eux, s'en exonèrent facilement. Là, avec les franchises, au maximum, on tirerait 850 millions d'euros chaque année en allant chercher de la menu-monnaie dans la poche des plus faibles et des plus malades, alors que Philippe Séguin, qui n'est pas quand même le sous-commandant Marcos, explique simplement, benoîtement, qu'en taxant les stocks-options, on récupérerait 3,5 milliards d'euros. Et il y a plein d'autres revenus financiers qui sont moins taxés que les revenus du travail. En gros, un Français paye entre 18 et 20% de son salaire indirectement pour la sécurité sociale. Je suis sûr que si on demande à un économiste cohérent, il nous démontrera que ce n'est pas du tout le cas pour les revenus financiers. Mais Nicolas Sarkozy, son but justement, c'est de masquer cette réalité et de faire croire aux Français que le trou augmente ou diminue uniquement en fonction de leur consommation de soins irrationnels, alors même que c'est l'ensemble du système qu'il faudrait revoir. Mais il faut être clair, à plusieurs reprises, Nicolas Sarkozy, lors de cette convention santé, ou François Fillon ailleurs, dira
que... Il me semble que l'objectif ne peut pas être de dépenser moins. Non mais ça, enfin, c'est un combat politique que je suis prêt à mener, et je ne vois pas pourquoi on se réjouirait de dépenser plus pour nos loisirs, et qu'on n'accepterait pas de dépenser plus pour notre santé. C'est un choix politique qui est incontournable et qu'il faut, cher Michel Chevalet, affronter tel quel.
Ils n'ont aucun problème à ce que les dépenses de santé augmentent. Sous-entendu, à partir du moment où elles ne seront plus socialisées. Comprenez-moi, si demain ce sont les assurances privées qui prennent ce marché, quand les dépenses de santé des Français généreront de l'argent pour les actionnaires des assureurs privés, on ne les verra plus aux gémonies, on ne dira plus du tout que c'est un problème. Ce qui pose problème à la droite libérale financière, c'est que les dépenses de santé en France soient encore en grande partie socialisées.
Vous nous dites que les franchises vont peser sur les gens les plus démunis. Or, on sait qu'en France, on a la CMU, la couverture maladie universelle.
Alors, la CMU, ça sert à tout et ça sert à légitimer le recul de l'accès aux soins pour ceux qui sont juste un peu moins pauvres que les plus pauvres. Je m'explique. De même que dans Germinal, on voit que les femmes des patrons des fonderies ont leurs pauvres à qui ils vont distribuer quelques lainages et quelques vêtements usagés, la droite utilise la CMU pour dire « mais regardez, regardez, on a vraiment bon cœur, on n'est pas du tout ces idéologues libéraux que vous croyez, on s'occupe des plus pauvres ». Et, par exemple, ceux qui ont la CMU ne seront pas impactés, ils seront en dehors du système des franchises. Le problème, c'est que quelqu'un qui est adulte handicapé, par exemple, avec un diabète et une amputation, ou qui est séropositif, ou qui vit avec le sida, son allocation adulte handicapé est supérieure de quelques euros à peine au plafond de la CMU, et donc ils vont payer plein pot. Et ça a en plus un effet qui est très pervers et que je vois souvent au cabinet médical. Des gens qui ont un revenu juste au-dessus de la CMU et qui me disent « Ah oui, mais moi, je suis obligé de le payer », alors que les autres, ceux qui ont la CMU, sous-entendu, ils abusent parce qu'ils ne payent pas. Et donc, avec la CMU, la droite réussit à faire passer un message de lutte des classes entre les classes les plus fragiles. Chacun désignant, non pas, si j'ose dire, le rentier qui se gave, mais le faible qui a sa carte de CMU, comme étant l'abuseur majeur dans le système. Et ça, c'est extrêmement pervers.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Alors, vous avez fait des hypoglycémies dans la nuit, le sucre était trop bas.
D'accord.
En fait, vous avez 4 piqûres par jour. Il y a une piqûre d'insuline lente qui dure 24 heures. Ok. Et 3 piqûres d'insuline rapide qu'il faudra faire que quand vous mangez, avant le repas. D'accord. La piqûre d'insuline rapide, elle dure 4 heures à peu près. Il faut garder les glycémies, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang au bout du doigt, 2 heures après les repas. D'accord. D'accord. Aujourd'hui, vous n'allez pas être très bien. On va surveiller de façon très rapprochée votre glycémie, mais à mon avis, vous allez faire pas mal d'hypo. D'accord ? Au revoir.
Le diabète, c'est un taux de sucre dans le sang qui est trop élevé.
Il y a combien de malades du diabète en France ?
Il y a environ 2,5 millions de diabétiques en France, en sachant que c'est pour moi un peu plus, et il y en a environ 500 000 qui s'ignorent. C'est quelque chose de très sérieux et c'est même un véritable problème de santé publique parce qu'on voit actuellement, en France, mais dans tous les pays du monde et dans tous les pays en voie de développement, une augmentation dramatique du nombre de diabétiques.
Voilà. La franchise, ce n'est pas la seule modification qu'on connaît dans le domaine de la santé. À l'hôpital, ici, il y a une grande réforme, ce qu'on appelle la T2A, nom de code pour la tarification à l'activité. Alors, en deux mots, c'est quoi la T2A ?
C'est-à-dire que ce sont les actes que l'on paye directement. Et ce n'est plus des durées d'hospitalisation, ce ne sont plus des coûts globaux. Et donc, quand pour un acte donné, on a intérêt à en faire le plus possible et à garder les malades le moins longtemps possible. Alors, il y a des structures qui réussissent ça très bien. L'hôpital qui a une nécessité de service public ne peut pas toujours le faire. Quand on voit un patient qui est des milieux sociaux défavorisés, où on sait très bien qu'il a une plaie au niveau du pied, que dans l'idéal, il pourrait retourner chez lui et faire des soins par une infirmière à domicile, dans de bonnes conditions d'hygiène. Quand il n'y a pas ces conditions d'hygiène autour de lui, qu'il est isolé, et bien souvent, on est bien obligé de le garder à l'hôpital ou de le mettre dans des structures de cicatrisation, de moyen séjour, qui vont coûter nettement plus cher et donc qui seront peu rentables. Si vous prenez l'exemple des problèmes de pied chez nos diabétiques, c'est vrai que dans certains cas, il serait plus rentable d'amputer d'emblée au niveau du pied que de tenter de sauver un pied avec des traitements médicamenteux, des antibiotiques parfois coûteux qu'il faut mettre pendant plusieurs jours, voire semaines en perfusion pour essayer de sauver un pied.
Alors évidemment, ça pour l'instant, on n'en est pas encore là. Personne n'est tombé dans cette logique.
On n'en est pas encore là, mais peut-être qu'un jour, on va se poser la question devant un pied grave, de se dire, est-ce que ça vaut le coup de tenter un mois de traitement pour sauver le pied ? Est-ce qu'on ne devrait pas raccourcir et aller directement au geste chirurgical pour économiser plusieurs semaines d'hospitalisation ? C'est clair que la rentabilité et la mise de la T2A comme mode de financement de l'hôpital risque de contraindre certaines structures à s'orienter vers des malades rentables et refuser les malades qui ne sont pas. Et donc on risque d'avoir deux systèmes de soins, des systèmes où on fait de la rentabilité et d'autres qui vont être malheureusement rapidement en déficit parce que n'étant pas dans la rentabilité mais plus dans la situation de malades coûteux qui refusent de prendre les structures privées rentables.
Rentabilité, déficit, malade coûteux, malade rentable, le dogme de l'inégalité, le voilà sous la forme de la santé publique, sous la forme de l'hôpital. Alors, on voit qu'il n'y a pas que les franchises médicales qui sont dans ce projet de modification, on va dire de réforme de la sécurité sociale, de la production sociale, mais il faut que ça passe parce qu'il y a eu des échecs. Plusieurs gouvernements, souvenez-vous, qui ont échoué à transformer et à faire advenir la privatisation de cette énorme citadelle, évidemment, qu'est la protection sociale et la sécurité sociale. Alors, comment faire ? Christian Lehmann.
Le 31 juillet 2007, voyant que la franchise ne passe pas...
4 euros par mois.
Parce que les Français sont rétifs à cette notion de responsabilisation des malades par l'argent, Nicolas Sarkozy descend à Dax, s'entoure de patients âgés dépendants qui ont une maladie d'Alzheimer...
Qui va oser me dire ?
Et des sanglots dans la voix nous expliquent qu'en fait...
4 euros par mois. Qui va oser me dire ? Que compte tenu du défi que représente pour la société Alzheimer, le cancer, les soins palliatifs, les besoins de la recherche, on ne peut pas mettre 4 euros par mois.
C'est pour mieux prendre en charge les défis du 21e siècle que sont le cancer, les soins palliatifs et la maladie d'Alzheimer qui va mettre en place ces franchises. Ce qui est conceptuellement, c'est étonnant. C'est-à-dire il s'entoure de patients âgés pour tirer une larme au peuple de France... Alors même qu'en fait, il met en place un système qui va d'abord taper sur ses patients âgés. Parce que comme ils sont âgés, qu'ils sont dépendants, qu'ils ont une maladie d'Alzheimer, ils vont payer le forfait sur les boîtes de médicaments, ils vont payer les forfaits sur les actes de kinésithérapie, sur les actes infirmiers et sur les transports sanitaires.
Ça va s'élever à combien pour eux ?
Ça va s'élever à 50 euros parce qu'ils vont être probablement au maximum. Mais c'est 50 euros là-dessus... plus 50 euros sur les consultations médicales, plus les forfaits hospitaliers, et ça peut continuer comme ça. Donc on se retrouve devant une diminution de la couverture des gens qui sont vraiment malades. Alors que ce qu'il faudrait poser, je le redis, c'est la question de la cotisation des revenus financiers. Mais c'est une question qui évidemment fâche, dans la mesure où on nous dit toujours que le coût du travail est trop cher en France, et qu'il ne faut pas embêter les investisseurs, sinon ils partiront ailleurs. Bah, qu'ils partent.
Bon, alors là, vous nous dressez un tableau un peu noir, donc d'une droite qui voudrait la mort de notre sécurité sociale héritée du Conseil national de la Résistance. Or, ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est quand même pas une révolution, c'est simplement de mettre à contribution les gens pour 50 petits centimes d'euros par boîte de médicaments et 1 ou 2 euros par acte médical, si je me trompe pas. Ça va quand même pas leur mettre le couteau sous la gorge à ces Français.
Alors, le problème, c'est que pour certains, ça met le couteau sous la gorge et ce n'est... vous savez, c'est comme le crocodile qui... S'il vous mange la jambe petit morceau par petit morceau, vous n'allez pas vous rendre compte tout de suite que vous ne pouvez plus marcher. D'accord ? Donc, on vous met un forfait hospitalier, c'est-à-dire quelque chose que vous payez chaque jour quand vous êtes à l'hôpital et qui n'est pas remboursé.
Ça, c'est déjà en place ?
C'est déjà en place depuis des années. Il commence très petit... Et puis petit à petit, ils se retrouvent à 15 euros par jour. Et vous vous retrouvez avec des gens qui ont des pathologies lourdes, qui ont des diabètes, des amputations, qui ont des problèmes cardiaques, qui sont pris en charge en affection longue durée, donc qui normalement ne paieraient pas leurs soins, mais qui refusent de se faire hospitaliser parce qu'ils ne peuvent pas payer 10 jours d'hospitalisation, 10 jours de forfait hospitalier. Donc, effectivement, on peut voir le forfait que Nicolas Sarkozy veut mettre en place sur les boîtes de médicaments, sur les actes infirmiers, sur les actes de kinésithérapie, sur les transports sanitaires, comme le simple prolongement du forfait qui a été mis en place sur les consultations médicales en 2004 par Douste Blasi.
Donc il y a déjà un forfait en place.
Il y a déjà un forfait sur les consultations pour responsabiliser les patients. En 2004, Douste Blasi invente le forfait, la retenue de 1 euro sur les consultations, en nous expliquant que ça va générer des économies, et qu'en 2007, la sécurité sociale sera à l'équilibre. Mais c'est 50 euros là-dessus, plus 50 euros sur les consultations médicales, plus les forfaits hospitaliers, et ça peut continuer comme ça. Donc on se retrouve devant une diminution de la couverture des gens qui sont vraiment malades. Alors que ce qu'il faudrait poser, je le redis, c'est la question de la cotisation des revenus financiers. Mais c'est une question qui évidemment fâche, dans la mesure où on nous dit toujours que le coût du travail est trop cher en France et qu'il ne faut pas embêter les investisseurs, sinon ils partiront ailleurs. Il ne faut pas oublier qu'au moment où Nicolas Sarkozy parle de sa franchise à la Convention Santé de l'UMP, il ne s'agit pas pour lui de mettre simplement en place ce qu'il met en place maintenant, un forfait de 50 centimes par boîte, etc. Il s'agit d'une franchise sèche de 50 à 100 euros par habitant, ce qui veut dire qu'une partie non négligeable de la population, 27% de la population, si la franchise avait été à 100 euros, n'aurait rien touché de la sécurité sociale chaque année, tout en continuant à cotiser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est dans un système où l'idée de solidarité déjà se délite. Mais si vous avez des gens jeunes, en bonne santé, qui continuent à payer quasiment 20% de leur salaire pour la sécurité sociale, sans toucher un centime de remboursement, parce qu'en fait leurs dépenses sont légèrement inférieures à 100 euros, en quelques années, vous avez totalement détruit dans leur tête l'idée d'assurance maladie solidaire et vous leur rendez extrêmement attractif le discours des assurances privées, qui est un peu le discours du serpent qu'a à Mowgli dans le livre La Jungle. Faites-moi confiance en disant « Mais regardez, la sécurité sociale vous coûte cher, elle ne vous rembourse pas. Nous, pour beaucoup moins cher, on vous prendrait en charge à partir du premier euro. » Évidemment, comme c'est une assurance privée, il faut lire les petites lignes qui disent « On vous prendrait en charge, vous qui êtes jeune, en bonne santé. » Quand vous serez plus âgé, quand vous aurez des pathologies, à ce moment-là, les cotisations exploseront et vous serez amené éventuellement à suivre ou pas.
On peut croire qu'il y a plusieurs vies après la vie. Chez Ascat, nous pensons qu'il y a plusieurs vies pendant la vie. Voilà pourquoi notre métier est d'imaginer des solutions adaptées à chaque moment de votre vie. Ascat, vous avez tant de choses à vivre.
Bonjour.
Oui, bonjour madame. Renaud Lambert à l'appareil. J'aurais voulu prendre une assurance santé. Voilà, j'ai une promotion professionnelle, donc j'ai un peu plus de moyens en ce moment et je voudrais vraiment bien me couvrir, quoi. Et je voulais vos conseils.
Oui, bah écoutez, très bien. Je vais vous demander votre date de naissance.
Oui.
Parce qu'il y a plusieurs niveaux, évidemment.
Quand vous dites qu'il y a plusieurs niveaux, c'est quoi ? C'est en fonction de l'âge ou en fonction de ce que vous proposez comme
service ?
Alors,
en fonction, le tarif est en fonction de l'âge, c'est sûr. Et même homme ou femme. Par contre, il y a plusieurs gammes de garanties. Le principe de l'assurance, c'est que tout le monde n'est pas malade en même temps. Mmh. Donc, ceux qui ne sont pas malades payent pour ceux qui sont malades. C'est ça, le principe de l'assurance.
D'accord. Mais en fait, ça ressemble au principe de la sécurité sociale, quoi. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas malades payent pour ceux qui sont malades, quoi.
Oui, c'est le principe de la mutualisation du risque. Sauf que la sécurité sociale, ce ne sont pas des capitaux privés. Donc, ils ne sont pas bien gérés. Nous gérons bien nos cotisations de façon à ce que, il n'y ait pas le trou de la sécurité sociale dans des contrats d'assurance faits par les assureurs. Si vous voulez, nous, c'est pour ça que nous n'allons pas assurer n'importe qui, n'importe comment, et nous allons prendre quelques renseignements sur la personne. On fait attention à ne pas prendre n'importe qui.
Pas n'importe qui, voilà, vous avez compris, vous en doutiez, mais c'est quand même pas mal d'entendre ça. Alors est-ce que c'est, un cas particulier ? Pas du tout, c'est un principe qui est en application et qui aujourd'hui, dans ce moment décomplexé, se dit tout haut. Ainsi, Denis Kessler, ex numéro 2 du MEDEF, qui dans Challenge du 4 octobre 2007 dit... Le modèle social français, il est grand temps de le réformer et le gouvernement s'y emploie. Adieu 1945, raccrochons notre pays au monde. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Illustration.
Mais une fois que j'aurai pris un contrat d'assurance avec vous, moi je peux arrêter de cotiser à la sécurité sociale ou pas ?
Non, c'est une obligation. On aurait bien voulu AXA. Et c'est justement l'assureur qui voulait supprimer les cotisations de la sécurité sociale. Et ça a été légiféré, ça a été complètement interdit par la loi. Donc AXA, si vous voulez, est effectivement l'assureur qui va le plus en avant sur ce plan-là, mais la loi malheureusement met des freins. Hein.
Kessler, elle était bien chez AXA à un moment.
Oui. Mais Kessler a été vice-président du CNPF et à la direction de la Fédération française des sociétés d'assurance.
Mais j'ai lu sa tribune dans Challenge il n'y a pas longtemps où il expliquait voilà,
c'est lui qui voulait supprimer ça. Le législateur n'a pas voulu accepter quoi. Parce que justement, ça mettait en péril la sécurité sociale. À partir du moment où il n'y aurait plus de cotisations, les gens étant assurés devraient continuer à toucher les prestations, vous voyez.
Ouais, non, je sais bien, mais ça m'intéresse parce que vous y connaissez bien. Parce que moi, j'ai voté Sarkozy en me disant, voilà, c'est la rupture, on va enfin en finir avec tout ça, quoi.
Bah, écoutez, il a supprimé déjà beaucoup de choses, hein, les droits de succession pour les conjoints, il les fait évoluer énormément. Mais là, il faudra arriver à des transformations, mais ça peut pas être, ça peut pas se faire du jour au lendemain.
Mais rassurez-moi, vous pensez qu'on va quand même y arriver?
Je ne sais pas. Ce qu'il faut, c'est, il fait le maximum de ce qui est possible, hein, je pense. Il va complètement réorganiser tout ça en 5 ans, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire parce que ça.
On est encore dans un système où les gens pensent que c'est gratuit, quoi. C'est ça.
Voilà. Déresponsabilisation des gens. Depuis 1968, et on aboutit à ça.
Et voilà, 1968. Et oui, 1968 1968, 1968, c'est l'explication à tout. Irresponsabilité, et puis voilà pourquoi on en est là. Mais il n'y a pas que cette dame qui pense ainsi. Il y a par exemple Éric Prozet d'Alternative Libérale, qui lui aussi s'insurge contre cette sécurité sociale.
La seule issue qu'il pourrait y avoir, c'est au niveau des droits de l'homme. Et ça, c'est quelque chose qui s'est trouvé au Canada, où il y a un certain docteur Shaouli, dont vous entendrez peut-être parler. Il a mené tout un combat, et dont tout le monde pensait qu'il était, que c'était un farfelu qui délirait complètement. Sauf que, eh bien, il a obtenu le jugement au niveau de la plus haute cour de justice canadienne, disant que le maintien d'un monopole était une atteinte aux droits de l'homme. C'est-à-dire que la liberté de l'homme consiste à dire que je peux aller m'assurer si je veux où je veux. Et qu'à partir du moment où la sécurité sociale n'était pas capable de fournir à une personne un service absolument irréprochable, et en l'occurrence il s'est basé sur le cas d'une personne qui avait attendu une opération de la prothèse de la hanche pendant 2 ans, alors que s'il était allé dans un pays comme les États-Unis qui est à côté, ont des systèmes privés, il lui suffisait de payer son intervention et d'être soigné immédiatement. Donc cette personne a dû subir pendant 2 ans des conditions de vie extrêmement négatives, tout ça parce qu'on lui obligeait, entre guillemets, à payer 2 fois. C'est-à-dire on lui disait, vous payez 1 fois pour votre assurance sociale canadienne qui vous coûte les yeux de la tête, et 2e fois pour aller vous faire opérer rapidement dans une clinique privée, de manière à sortir de cette situation. Donc, on voit qu'il existe une issue par rapport aux droits de l'homme, puisque la sécurité sociale se doit, à ce moment-là, si elle ne vous fournit pas d'autres alternatives, elle se doit d'être irréprochable.
C'était un reportage de Renaud Lambert. Merci à tous et à toutes à lire Les Fossoyeurs de Christian Lehmann aux éditions privées. Et pour signer la pétition contre les franchises médicales, voici l'adresse internet www.appelcontrelafranchisetoutattaché.org. Mais vous retrouverez toutes ces informations sur le site de France Inter, à la rubrique émissions, là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Julien Chabassu et Christophe Papon. Réalisation, Yann Chouquet et Coy Nguyen. Assistante, Charlotte Perry. Chef du répondeur, Christophe Imbert. Et le numéro du répondeur est le 01 56 40 37 37.